sur les genoux, l'histoire peut commencer. Voici un livre de Rosemary Wells, Le Petit Prince paralysé. Il était une fois un royaume nommé El Cordoba. Un jour naquit un prince. Sa mère, la reine, son père, le roi, l'appelèrent Francisco et commencèrent tout de suite à le dorloter. Ils l'adoraient par-dessus tout. Francisco était un bébé d'une santé éclatante. Son teint avait la couleur de la rose, ses yeux avaient la couleur du ciel et tout son visage respirait l'intelligence. Malheureusement, la reine était souvent malade et le roi devait rester de longues heures à son chevet. Ainsi, le roi berçait le petit prince, lui chantant des chansons, tandis que la reine l'accompagnait sur sa petite harpe. Pour le premier anniversaire du prince Francisco, on organisa une grande fête dans tout le royaume d'El Cordoba. On fit ouvrir les fûts du meilleur cidre, on pressa les fruits les plus rares pour faire 10 sortes de jus délicieux. On mit à cuire 3 tonnes de kumquat épicé et on cuisina assez de tartelettes aux courgettes pour nourrir tout le peuple. Malheureusement, ce jour-là, la reine était tellement souffrante qu'elle ne pouvait pas se joindre à la fête et elle dut confier le petit prince Francisco à une femme de chambre. Elle choisit la plus jolie de toutes les femmes de chambre du château. Ce fut une grave erreur. Au moment même où le défilé commençait, la femme de chambre, oubliant complètement Francisco, se précipita devant son miroir pour se lisser les cils. Le petit prince glissa alors de ses bras et tomba lourdement sur le sol en marbre. Le prince n'eut pas un cri. Il restait là, immobile, et sous les yeux épouvantés de la femme de chambre, son joli teint de rose se mit à virer au vert. Il prit la couleur des feuilles mortes. C'est alors qu'on entendit une petite voix rauque et furieuse.
« Relève-la donc, petite sotte !»
Surgissant de l'intérieur d'un vase, on vit apparaître une femme, une toute petite femme vraiment minuscule, mais formidablement vive.
« Pour qui vous prenez-vous ? » répliqua la femme de chambre.
« Je suis la marraine du prince, voilà qui je suis, et je vais te surveiller toute la journée, espèce de gourde. Je serai au-dessus de toi comme un aigle. »
Et bop, dans un bruit de pop-corn, la petite femme disparut. La fête se poursuivit sans autre incident. Dans les bras de la femme de chambre, le petit prince reprenait des couleurs, mais ne remuait toujours pas, et personne ne s'en apercevait. À 4 heures de l'après-midi, la cloche de la tour retentit, elle annonçait une triste nouvelle. Là-haut, à l'intérieur du palais, pendant que tout le monde dansait, la reine venait de mourir dans son sommeil. Le roi tomba alors dans une sombre et profonde mélancolie. Pendant les semaines qui suivirent la mort de la reine, il ne cessa de pleurer. Il commença à maigrir et perdit presque 20 kilos. Le pauvre roi refusait de manger, refusait de travailler, jusqu'au jour où il refusa même de se lever pour s'habiller. N'ayant plus le goût à rien, il abandonna une partie de ses pouvoirs à son frère Osvaldo. Et ce fut une terrible erreur. Un an plus tard, Osvaldo dirigeait tout. Pendant ce temps, au fil des semaines, le prince Francisco tombait petit à petit dans l'oubli. On l'avait confié à une brave nourrice venue d'une des fermes de la région. Elle portait le plus grand soin à Francisco, qui avait retrouvé son joli teint de rose, mais qui ne pouvait toujours pas remuer les jambes. Puisqu'il était paralysé, l'un des jardiniers du château lui fabriqua un petit fauteuil roulant en bois de pommier. Au bout de 2 ans, le roi était tellement déprimé qu'il avait perdu plus de 30 kilos. Il était si faible qu'il pouvait à peine porter un verre d'eau à ses lèvres. Osvaldo en profita. Il s'installa au palais avec Isabella, sa cochonne de femme, et ses 7 enfants, plus stupides et insupportables les uns que les autres. Le royaume d'El Cordoba devint un bien triste pays. On ne payait même plus les fermiers pour leurs récoltes. Les commerçants étaient dévalisés par les milices privées d'Osvaldo qui leur prenaient les meilleurs produits. Tout cela était assez terrible, mais il y eut pire encore. Osvaldo fit fermer les refuges pour les pauvres et les sans-abri et, comble de l'horreur, il fit supprimer la distribution de lait aux petits orphelins. Les soldats, quant à eux, portaient des uniformes somptueux. Ils étaient partout, terrorisant le peuple. Au bout de quelques mois de ce régime, le roi mourut. Dès lors que le roi était mort, plus rien ne pouvait empêcher l'ignoble Osvaldo d'accéder définitivement au trône. Plus rien, sauf Francisco. Mais Osvaldo ricanait.
Francisco, ce prince qui n'a même pas 3 ans et qui est incapable de marcher, comment pourrait-il m'empêcher de devenir le roi?
Et Osvaldo murmura.
« Ce soir, je pousserai Francisco par la fenêtre et il finira au fond des douves du château !»
Le rire bête d'Osvaldo fut aussitôt interrompu par un bruit de pop-corn. Bon. La marraine de Francisco surgit de l'humidificateur à cigares, menaça Osvaldo sans hésiter.
« Hé, gros lard ! » dit-elle. « Attention à toi ! Si tu touches un seul cheveu de Francisco, une marmite d'huile bouillante se renversera sur toi !»
Osvaldo, qui croyait en la magie, fut terrifié par la petite marraine. Il lui fallut donc imaginer un nouveau plan pour se débarrasser de Francisco sans le tuer. La nuit suivante, il fit sortir de prison une pauvre femme qu'il avait lui-même condamnée à mort parce qu'elle avait volé une pomme. Elle s'appelait Carmen.
« Viens ici, maudite voleuse !» grogna Osvaldo. « Je te donne une chance de ne pas mourir. Écoute-moi bien. Je vais t'envoyer à Tierra Dolorosa, l'endroit le plus froid et le plus retiré de la terre. Tu vivras dans une tour et tu garderas mon neveu Francisco. Mais gare à toi. Si jamais tu lui révèles qu'il est le prince d'El Cordoba, tu seras de nouveau condamné à mort. Et cette fois-ci, tu n'en réchapperas pas. »
Discrètement, Osvaldo fit placer Carmen et le petit prince Francisco dans un wagon de marchandises rempli de nourriture. Afin d'être sûr que le secret de ce voyage serait bien gardé, il choisit pour conduire le wagon un mécanicien qui ne parlait que la langue esquimaude et que personne n'était capable de comprendre. Le convoi partit pour Tierra Dolorosa à minuit. La tour de Tierra Dolorosa était plantée comme au bout du monde. Elle dominait une sorte de désert qui s'étendait à perte de vue. Seules quelques touffes d'herbes sauvages arrivaient à pousser avec peine dans cette terre sableuse. Le vent humide soufflait à longueur de journée, 12 mois sur 12. De temps en temps, le mécanicien revenait chargé de provisions. Il continuait de ne rien comprendre à ce que Carmen lui disait. Carmen n'avait personne à qui parler, et très vite elle apprit à Francisco à s'exprimer comme un adulte. Elle lui enseigna également le chant et la poésie. Francisco adorait la lecture. Il lisait tous les livres que le mécanicien apportait. Quand il avait fini, il lisait les étiquettes qui étaient sur les boîtes de cuisine. Il lisait tout. C'est ainsi qu'un jour, se promenant à 4 pattes dans la tour, il découvrit les lettres que Carmen recevait de sa sœur Rosa. Il n'était question que des horreurs qui se passaient à El Cordoba, et pour la première fois de sa vie, Francisco apprit l'existence de ce dictateur horrible qu'il n'avait jamais vu et qu'on nommait Osvaldo. Ce fut aussi par les livres que Francisco finit par comprendre qu'il n'était pas un enfant comme les autres, capable de jouer, courir et danser en sautant en l'air. C'était un jour triste. Les gouttes de pluie tombaient sur les carreaux comme des larmes. Francisco était alors âgé de 11 ans. Soudain, il jeta par terre le livre qu'il avait déjà lu 20 fois et dit « Je veux marcher, je veux jouer au football comme les autres garçons !» C'est alors que le bruit étrange du pop-corn se fit entendre. Pop. La minuscule marraine surgit du fond d'un pot de fleurs abandonné sur le balcon.
« Salut !»
dit-elle à Francisco. « Salut !» répondit Francisco. « Mais qui êtes-vous »«
Je suis ta marraine !» dit la petite dame.
« Vous faites de la magie ?» demanda Francisco.
« En effet !» répondit la petite dame. « Mais je n'ai que des pouvoirs assez limités. Cependant, regarde un peu !»
Et hop, elle déroula sa cape sur le sol. Elle ressemblait à une grande feuille de lys, rien de plus.
Beaucoup de garçons et de filles savent marcher et courir, dit la marraine. Mais très peu sont capables de voler dans les airs. Monte sur cette cape et demande-lui de t'emmener où tu veux.
Francisco, incrédule, fit exactement ce qu'on lui demandait. Il s'installa au milieu de la cape et dit « Vole, emmène-moi dans les airs !» Et aussitôt la cape souleva Francisco à 2 mètres du sol.
« Et maintenant, si tu as besoin de moi, appelle et je viendrai !»
dit la marraine en disparaissant dans un bruit de pop-corn. Francisco se mit tout de suite à expérimenter sa cape volante. Heureusement pour lui, Carmen n'était pas là, elle restait dans sa chambre à cause des migraines et des rhumatismes dont elle souffrait beaucoup par ces temps pluvieux. Francisco avait ainsi tout loisir de se distraire. Il vola pendant des heures et, à la fin, il ordonna à sa cape de sortir par la fenêtre. Francisco était capable de partir très loin sur cette cape volante. Il quitta Tierra Dolorosa et fonça à toute allure au-dessus des monts Sangria, puis survola les villages les plus éloignés. Cependant, Francisco ne voulut pas s'aventurer trop près de la capitale d'El Cordoba. Il était bien trop effrayé par tout ce qu'il avait lu dans les lettres que recevait Carmen. Le soir, après un dernier survol de la magnifique vallée Corona de Oro, Francisco revint juste à l'heure pour le dîner. Le wagon de marchandises venait de quitter la tour et s'éloignait, toujours conduit par le mécanicien Eskimo. Francisco ne voulait rien dire à Carmen à propos de la cape volante. Il se cacha, et c'est ainsi qu'en regardant par la fenêtre de la cuisine, il surprit Carmen en train de lire une lettre que sa sœur Rosa venait de lui envoyer. En lisant cette lettre que le mécanicien Eskimo lui avait apportée, Carmen avait des larmes plein les yeux et elle tremblait de tous ses membres. Après le dîner, Carmen était encore bouleversée et elle montra la lettre à Francisco.
« Osvaldo est en train de briser l'âme du peuple d'El Cordoba, » expliqua-t-elle. « En ce moment même, les fermes brûlent et les magasins sont pillés par les soldats d'Osvaldo. Le pays est en révolution. Ma pauvre sœur Rosa est effrayée et elle meurt de faim. »
Carmen sanglotait.
« Que pouvons-nous faire ?» demanda Francisco.
Carmen prit le bras de Francisco et elle lui révéla le secret qu'elle gardait en elle depuis tant d'années.
Tu es le roi légitime d'El Cordoba, dit-elle à Francisco. Osvaldo est ton oncle.
Moi ? Dit Francisco, stupéfait.
Oui, dit Carmen, c'est une tragédie, car tu n'es qu'un pauvre garçon paralysé et tu ne peux rien faire. Quel malheur !
Cette nuit-là, Francisco ne put trouver le sommeil. Effondré sur son lit, il murmurait :
Je suis le roi d'El Cordoba et pourtant. Si je retourne dans mon pays, les gens vont se moquer de moi parce que je ne suis qu'un petit garçon paralysé sur son fauteuil roulant. Que puis-je faire ?
Comme pour lui répondre, le bruit du pop-corn retentit dans la chambre de Francisco. La petite dame jaillit d'une armoire et vint s'installer au pied du lit.
« Francisco, dit-elle, tu es un roi. Il est temps d'agir comme un vrai roi. Tu vas passer une bonne nuit de sommeil. » Demain, tu avaleras un bon petit déjeuner et tu partiras sur ta cape volante pour secourir ton peuple.
Francisco se réveilla bien avant le chant des pauvres oiseaux de Tierra Dolorosa. En quelques mots, il révéla à Carmen le secret de sa cape volante. Elle lui confectionna un petit déjeuner avec des tartelettes aux myrtilles, du melon, de la noix de coco, des fraises à la crème, une omelette au fromage suisse, et une banane à split. Quand il eut tout mangé, elle lui donna un baiser d'adieu. Francisco vola toute la journée, et à minuit, il atteignit la capitale d'El Cordoba. Une seule lumière brillait encore à l'intérieur du palais. Dans la salle à manger royale, Osvaldo et Isabella finissaient un dîner énorme. Planant dans l'obscurité, Francisco put voir Osvaldo enfourner dans sa bouche un feuilleté à la crème au chocolat nappé de sauce caramel. C'était dégoûtant à regarder. Pour faire glisser l'énorme gâteau dans son gosier, Osvaldo but un grand verre de cognac. Hop ! Puis il s'alluma un cigare. Isabella n'aimait pas l'odeur du cigare. Elle se tourna vers la fenêtre et c'est à ce moment-là qu'elle aperçut Francisco planant dans les airs.
« Par tous les saints !» s'écria-t-elle. « Appelle les gardes, Osvaldo !»
Osvaldo s'essuya la bouche du revers de sa manche et s'approcha de la fenêtre en titubant.
« Au nom de Lucifer, qui es-tu »
grogna-t-il. « Je suis Francisco, ton neveu ?» répondit Francisco.
« J'hallucine, je dois être ivre !» marmonna Osvaldo.
Il partit boire du café, croyant ainsi pouvoir retrouver ses esprits. Mais après deux ou trois tasses, il se tourna vers la fenêtre et Francisco était toujours là.
« Sacré Francisco !» s'écria-t-il cette fois. « Je reconnais son visage, c'est bien lui !»
Alors, Osvaldo fut pris d'un tremblement atroce. Les cigares, le cognac, les cafés et tous les repas pantagruéliques dont Osvaldo s'était goinfré depuis tant d'années, tout cela faisait maintenant effet. La honte et la méchanceté de son âme se mêlant à ses abus de nourriture, Osvaldo s'écroula raide mort aux pieds d'Isabella qui se mit à pleurer.
Je suis désolé, je n'avais pas l'intention de le tuer, dit Francisco en entrant dans la pièce sur sa cape volante.
« Ne t'en fais pas, mon garçon, ce sont des larmes de joie, » dit Isabella en sanglotant de plus belle. « Osvaldo était un mari cruel. Il me faisait des cadeaux somptueux, mais il avait un cœur de crapaud. Maintenant, je peux reprendre mes enfants chéris et retourner chez ma mère à Madrid. Mais toi, mon petit, tu dois être affamé, » dit-elle. « Prends un peu de saumon fumé, il est farci avec des champignons sauvages et du caviar. »
« Non, merci, » dit Francisco. « Je ne mangerai que lorsque le peuple d'El Cordoba aura mangé. » Le lendemain matin, Francisco fit ouvrir les prisons et libéra tous les innocents. Il décréta une journée de fête nationale et fit confectionner dans les cuisines privées d'Osvaldo suffisamment de pâtes de mangue, de surprises à la noix de coco et de kumquat frits pour tout le royaume. Plus tard dans la nuit, la fête terminée et toutes les fins apaisées, Francisco se reposa enfin. Avant de s'endormir dans son fauteuil roulant, il dit dans un soupir « J'espère que jamais personne ne se moquera de moi à cause de mes jambes, et j'espère que je serai un bon roi. » C'est alors que retentit le bruit du pop-corn. Cette fois-ci, la petite marraine surgit d'une jolie coupe en porcelaine peinte à la main et remplie de fruits.
« Tu seras le roi le plus aimé de toute l'histoire d'El Cordoba, » dit-elle. « Tant que ton esprit sera bien avisé et ton cœur généreux, personne ne se moquera de tes jambes. »
Et c'est ainsi que Francisco dirigea son royaume, assis sur son fauteuil roulant. De temps en temps, Carmen promenait le petit prince autour du palais. Le fauteuil était à présent orné de fleurs, de pierres précieuses et de 1000 cadeaux offerts par le peuple d'El Cordoba. Certains soirs, à la pleine lune, alors que tout le monde était endormi, Francisco s'en allait en secret sur sa cape magique, volant au-dessus des montagnes et des vallées. Il s'enivrait de musique lointaine et se laissait éblouir par les lueurs mystérieuses des villages perdus dans la montagne.